Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Pour cette nouvelle émission, nous allons reprendre le cours de ce que je disais sur les romantiques. Donc, au cours du temps, vont s'affirmer ces voix d'artistes plus sensibles, plus impliquées au vu des inégalités sociales. Ce sont des personnes d'ailleurs plus conscientes que d'autres que l'être humain se dirige vers la machine, au risque de se transformer eux-mêmes en machine et d'y sacrifier leur âme, puisqu'ils se mécanisent. C'est aussi pourquoi dans cette mouvance et en écho, c'est en écho aux événements sociaux que vont apparaître ces artistes porte-parole des faibles et des opprimés et ceux que l'on a appelés les réalistes. Et vous allez trouver donc les littérateurs comme Hugo, Zola, Balzac qui vont dépeindre les maux de la société, les travers. Ils vont montrer du doigt, ils vont souligner aussi les incohérences de ce temps et donc les injustices, et accuser bien évidemment ceux qui les perpétuent. Dans les réalistes, vous avez un peintre comme Gustave Courbet, qui va reproduire fidèlement des scènes de la vie quotidienne. Là, vous aurez Daumier qui va dessiner et sculpter des personnages caricaturaux. Ensuite, vous allez avoir les naturalistes qui vont intervenir dans la suite des réalistes et eux sont plutôt les peintres de la nature et les représentants surtout du monde agricole et également du monde ouvrier. Donc Jules Dalloux, lui, qui est sculpteur, est un sculpteur du monde ouvrier. Il a beaucoup représenté des sculptures sur tous les métiers du monde ouvrier. Vient également le symbolisme, qui est plutôt à la fin du 19e, et là c'est un art rêvé, poétique, en réaction, un peu épidermique, contre le scientisme. C'est évidemment l'apologie du rêve contre la matière, qui est représentée à cette époque par le positivisme. Là, vous trouvez donc les signes et les symboles d'un monde imaginatif et mystérieux. Le peintre Gustave Moreau a très bien représenté ce courant. Et le sculpteur céramiste Jean Cariès a aussi très bien illustré ce courant avec ses masques expressifs que moi j'ai encore pu contempler il n'y a pas si longtemps au petit musée, au musée du Petit Palais de Paris. Et je vous encourage, si vous allez sur Paris, aussi de faire un petit tour dans les musées, parce qu'il y a des choses intéressantes. Bon, sinon pour les poètes, vous trouverez Verlaine et Rimbaud, pour ne citer qu'eux. Ensuite, en peinture vont apparaître les impressionnistes. Alors là, on s'éloigne encore de l'académisme, puisque c'est ici le règne de la couleur sur la forme. Impression, c'est le mot qu'il faut retenir. Vous recevez une impression, principalement de la nature, et le peintre la retranscrit en couleur. Pour ce faire, les peintres procèdent par petites touches, en recevant les impressions justement que leur offre la nature. C'est des petites touches de couleurs primaires, très souvent, qu'il pose les unes sur les autres. Il ne dilue pas leurs couleurs. Ça, c'est un peu pour la technique. Et comme ils veulent retenir les impressions, c'est aussi beaucoup pour la raison pour laquelle ils peignent à l'extérieur. Ils partent avec leur chevalet dans la campagne et ils récoltent ce qui les intéresse. Je ne sais pas si vous vous souvenez des nymphéas de Monet, parce que Monet est un des impressionnistes les plus connus, et c'est pareil à l'Orangerie de Paris, près de la Concorde. Je sais pas s'il existe encore, ça je vous dis peut-être une bêtise, il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que ça fait un moment que je ne suis pas allée, mais sinon il a son musée aussi à la campagne, dans les environs de Paris aussi. C'est très joli, j'y suis allée il y a longtemps de ça. Et c'est vraiment très, très, très joli. Et on est vraiment dans l'ambiance de Monet, hein. On se retrouve avec lui. Et ses tableaux nous viennent en mémoire et en même temps, enfin, à condition de les avoir vus d'abord. Et ensuite, vous suivez ce petit périple et vous vous promenez avec lui. Voilà, c'est poétique et charmant au printemps. Enfin, je décolle. Là, je reviens. Je vais réatterrir pour vous parler. Bien, alors, les sculpteurs, eux, paraît-il. Oui, enfin, on va dire aussi qu'ils impriment le modelé par petites touches, hein, également. Des impressionnismes, ben vous avez quelques variantes, hein, comme le pointillisme. Alors là, c'est des petits points de couleur. Oui, plutôt les touches de couleur vont se transformer en points. Voilà, c'est beaucoup plus petit et puis c'est aligné les uns à côté des autres et ça doit former un ensemble cohérent. Et figuratif. Bon, il y a les caricaturistes, hein, j'en ai parlé. Hein. Bon, il y a Jean-Pierre Danton avec les bustes de ses célébrités. Donc là, il y a de la critique. Hein. C'est un petit peu dans le courant des réalistes. Hein, bon. Puisqu'ils accentuent les caractéristiques des personnages, souvent des personnages politiques qu'ils représentent en sculpture. Dans la lignée, ben, vous avez Daumier. Lui, il est à la fois peintre et modeleur. Moi, j'adore Daumier, hein. C'est aussi un de mes artistes préférés, non, parce qu'il fait des caricatures remarquables. Et ben, n'oublions pas, hein, même si c'est quand même le début du XXe, mais n'oublions pas le Périgord d'Ancemme. Hein, puisque nous avons eu une rétrospective à Périgueux cette année. Et lui, bon, ben, il a caricaturé plutôt à partir du début du XXe, enfin très fin 19e, début du XXe, hein, voilà. Parce qu'il y a des mouvements qui sont à cheval entre les deux. Hein, donc c'est difficile de dire 19e, 20e. Hein, ils sont vraiment, ce sont des mouvements de transition, voilà. Dans ces mouvements de transition, justement, il faudrait mentionner l'art nouveau, qui lui englobe le mobilier, où l'inspiration vient de la nature. Et là, c'est l'époque ben, de la grande tragédienne Sarah Bernhardt, dont le peintre Mucha s'est inspiré pour ses tableaux. Bon, c'est aussi des créations architecturales, dont Gaudi, que j'adore, et je ne peux pas m'empêcher de penser à sa Sagrada Familia, l'extraordinaire cathédrale de lumière dans Barcelone qui est en Espagne. Et puis les sculptures sont vraiment étonnantes. Bon, il y a aussi des théories picturales qui circulent à ces moments-là. C'est au travers de l'affiche. Et ces théories picturales auront une répercussion sur ce qui sera plus tard la publicité. Ça, j'avais abordé quand j'étais étudiante à l'école de décoration. Et pour la technique, il s'agit d'une technique picturale épurée qui est issue de la peinture asiatique, où il y a très peu de couleurs, souvent pas plus de trois, des aplats. Et elles sont faites, et ce sont des couleurs primaires, hein, souvent, et c'est vrai qu'elles sont faites pour frapper tout de suite le regard, ce qui est le but de la publicité visuelle en général. Alors là, ben, Van Gogh s'est intéressé déjà à cette peinture asiatique. Puis après, Toulouse-Lautrec a repris. Et lui, on voit bien, puisque, à mon avis, enfin, mon avis, c'est pas mon avis. Hein. J'ai appris, et j'ai aussi appris ça hein, quand j'étais à l'école, qu'il était à l'origine des affiches. Si vous regardez les affiches de Toulouse-Lautrec, vous pouvez remarquer en effet ce que je viens de vous dire. Des aplats de couleurs, une simplification dans la couleur et faite pour attirer tout de suite le regard, frapper. Bon, sinon, dans ce mouvement concernant l'affiche qui sera plus tard la publicité, vous avez Jules Chéret. On peut dire que c'est le père de l'affiche. Et puis après, ensuite, bon, est venu Charles Loupeau. Voilà pour donc le 19e siècle. Bon, je rappelle quand même que mon but n'est pas vraiment de faire l'histoire de l'art, même si j'en fais un peu. C'est ce que je veux surtout vous montrer, c'est la richesse du monde artistique. Et j'aimerais parler de tout, C'est impossible, je suis très gourmande en la matière et j'essaye de me contrôler. Par rapport à l'art, j'ai quand même envie de vous donner une définition de l'art par Van Gogh, qui est donc le peintre, un peintre célèbre de la fin du 19e. Et Van Gogh disait « L'art, c'est l'homme ajouté à la nature ». La nature, la réalité, la vérité dont l'artiste fait ressortir le sens, l'interprétation, le caractère qu'il exprime, qu'il dégage, qu'il démêle, qu'il libère, qu'il éclaircit. Bon, ce que je veux montrer aussi, surtout au début de ces émissions, et qui sera utile par la suite, c'est comment l'art influence la société et comment la société influence l'art. Quels sont les échanges de l'un à l'autre, et qu'ils soient positifs, mais aussi négatifs. Et à mon avis, le XXe siècle est une période extrêmement importante qui a grandement modifié le regard de la société sur l'art. Et les artistes du XXe siècle, ce sont des artistes pour la plupart qui ont fortement bousculé les codes. Bon, évidemment, ces influences, comme je vous l'ai dit, elles sont positives ou négatives. Mais en tout cas, elles ont provoqué des répercussions qui font que peut-être certains artistes de maintenant bénéficient d'une reconnaissance d'État, d'autres non, et que peut-être même certains sont éliminés du monde de l'art. Bien, revenons à ce que je disais sur le 19e. La sculpture, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai, vous avez pu constater qu'elle a suivi les divers événements et mouvements artistiques. Bon, je n'ai pas mentionné Rodin, ni Camille Claudel, ni Bourdelle, ni Mayol, qui sont des sculpteurs modernes du 19e, mais à cheval sur le 20e. Si je prends l'exemple de Rodin, je peux dire qu'il a apporté des nouveautés dans son genre. Et je peux dire aussi que j'y suis sensible parce qu'en tant que sculpteur modeleur, parce que Rodin était modeleur, ce qui veut dire que son matériau, qui peut être la terre, ce matériau impose des possibilités techniques. Et il est vrai que j'ai utilisé inconsciemment une de ces techniques au début de mon périple artistique, où je cherchais à imprimer dans la matière de la force et de l'expression. Et j'ai eu une explication théorique par la suite par Rodin, bon, en lisant ses textes, etc. Et cela a fait peut-être aussi que les gens qui connaissent un peu Rodin m'ont retrouvé dans sa filiation, un peu comme, et souvent celle de Camille Claudel. J'espère pas avoir la même fin. Bon, enfin bref. Pour cette période de transition, hein, nous arrivons là au XXe siècle, et la prochaine émission, nous verrons une apothéose en art avec les courants divers et variés qui ont marqué ce siècle. Et il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Et en attendant de nous retrouver, je vous laisse avec la Moldau de Smetlana, qui est un compositeur tchèque du 19e siècle.